VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Amnesty International a demandé hier aux autorités camerounaises d'ouvrir une enquête sur la disparition forcée de 130 personnes dans le nord du Cameroun en 2014, au plus fort de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Selon l'ONG, 130 hommes et garçons ont été arrêtés dans leur village du nord du Cameroun il y a plus de 5 ans et leurs proches sont sans nouvelles depuis, écrit l'ONG dans un communiqué. En République du Congo, 5 activistes arrêtés entre octobre et décembre 2019 sont toujours détenus à la maison d'arrêt de Brazzaville. Ils sont officiellement accusés d'incitation au trouble à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité de l'État. Qu'est-ce qui explique ces charges retenues contre eux? Nani Talani, adjoint à Brazzaville, Trésor Nzila, il est le directeur exécutif de l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Ils sont membres du mouvement citoyen Ralbol, membres de l'association des incarneurs d'espoir. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et aussi actifs sur le terrain. À un, Céleste Lenvo Maleka, on lui reproche le chef d'incitation aux troubles à l'ordre public sur la base de la loi sur les partis politiques. Or, il s'avère que Céleste Lenvo Maleka n'est ni dirigeant ni membre d'un parti politique. Les quatre autres, on leur reproche le chef d'atteinte à la sécurité de l'État. Alors là, il s'agit d'une infraction extrêmement grave qu'on colle de façon aussi légère à des jeunes activistes.
En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, quelle appréciation faites-vous des charges qui sont retenues contre ces personnes?
Pour nous, il s'agit là des détenus d'opinion parce qu'ils sont détenus uniquement dans le cadre du droit à la liberté d'expression et des réunions. Donc, ce sont des motifs pour nous qui ne se justifient pas et que le maintien en détention de ces jeunes activistes ne peut se justifier ni sur le plan humain, ni sur le plan légal.
Ont-ils déjà été présentés devant un juge?
Oui, effectivement. Et nous avons engagé des avocats qui travaillent au stade actuel de la procédure et au regard du vide même des dossiers, nous pensons que la place de ces jeunes activistes n'est pas en prison, ils doivent être libérés.
Que risquent ces personnes si le procureur décide de poursuivre les accusations portées contre elles?
Cela suppose que ces jeunes activistes encourent la réclusion criminelle, puisque l'atteinte à la sécurité de l'État est une infraction criminelle. Et voilà pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus, en train de toucher tous les acteurs qui sont en mesure de faire la pression sur les autorités congolaises afin que les charges qui pèsent sur ces jeunes soient abandonnées.
Qu'est-ce que vous comptez encore faire pour garantir leur libération?
Nous sommes en train de renier ciel et terre. Aujourd'hui, nous avons adressé des correspondances à pas mal d'institutions internationales. Nous sommes en train de les toucher, y compris les partenaires du gouvernement congolais, pour qu'ils comprennent que la situation des droits humains est très préoccupante en République du Congo et qu'ils ont intérêt à tout faire à ce que le gouvernement congolais respecte ses engagements en matière de droits humains. Donc nous sommes là en face d'une situation inadmissible, d'une injustice. Je vous fais aussi une confidence que ce matin, nous avons écrit au président de la République, en sa qualité de garant des droits fondamentaux des citoyens, de prendre des mesures nécessaires afin que ces jeunes activistes soient libérés.
Êtes-vous certain que toutes ces actions vont aboutir à ce que vous souhaitez?
On reste optimiste. Les autorités congolaises gagneraient en rendant la liberté à ces jeunes. Les maintenir en prison ne fait qu'écorcher encore l'image du pays qui est déjà très négative sur la question des droits humains. Et donc là, l'occasion est donnée aux autorités congolaises de se ressaisir et de rendre la liberté à ces jeunes parce qu'ils n'ont rien fait de grave. Des jeunes activistes qui, sur les réseaux sociaux, affichent une sympathie envers un mouvement politique basé en France ne constitue pas un crime.
Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, joint à Brazzaville. Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, principale alliance djihadiste du Sahel affiliée à Al-Qaïda, s'est dit prêt à accepter de négocier avec Bamako. Cette branche d'Al-Qaïda exige au préalable le retrait des forces de la France et de l'ONU. Michel Joseph.
Nous sommes prêts à engager des négociations avec le gouvernement malien pour discuter des moyens de mettre fin au conflit sanglant entré dans sa 7e année, dit le groupe dans un communiqué publié par sa plateforme Al-Zalaka et authentifié lundi par le Centre américain de surveillance des sites djihadistes, CIT. Ouest. Il ne saurait être question de négociation à l'ombre de l'occupation avant le départ du Mali de toutes les forces françaises et de ceux qui les suivent, dit le GSIM. Justifiant sa prise de position comme une réponse à la demande exprimée par les Maliens lors de récentes manifestations, cette organisation veut que le gouvernement déclare ouvertement la fin de la présence de Barkhane et des troupes de la MINUSMA sur son territoire. Aucune réaction officielle au communiqué du GSIM n'est encore venue du gouvernement malien, de la France ou de l'ONU. Cette annonce fait suite à la récente décision du président malien Ibrahim Boubacar Keïta de rompre avec la ligne directrice suivie jusqu'alors officiellement dans le conflit en cours depuis 2012 et de tenter de dialoguer avec certains djihadistes maliens. Le nombre de morts au Sahel devient exponentiel et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées, avait-il dit. Le chef de l'État malien avait aussi dit ne pas exclure des discussions avec le groupe État islamique et son chef local, Adnan Abou Walid Al-Sahraoui.
Au Nigeria, Muhammadu Sanusi II n'est plus l'émir de Kano, l'une des grandes figures du pouvoir traditionnel dans le pays. Les autorités locales l'ont détrôné et l'ont conduit sous escorte policière dans un autre État nigérien. Abdourahmane Dia.
Le conseil exécutif de l'État de Kano a donné son accord à l'unanimité pour détrôner l'émir Muhammadu Sanusi et le relever de ses fonctions. Le conseil lui reproche d'avoir manqué de respect aux institutions et d'avoir refusé de participer à des réunions sans justification légale. Aussitôt décidé au Parlement, son renvoi a été effectif. Des membres des forces de sécurité accompagnés d'agents des services de renseignement sont allés le chercher dans son palais pour le conduire dans l'État voisin de Nassawara, où il restera en exil, a confié une source gouvernementale. Son successeur a aussitôt été désigné. Le gouverneur le considère comme un soutien de l'opposition. Les chefs traditionnels ont perdu leur pouvoir politique sous la colonisation britannique, mais leur influence est énorme dans la société nigériane, certains considérant les plus grands chefs comme des demi-dieux. Sanusi a été gouverneur de la Banque centrale, dont il a été écarté en 2014, après avoir dénoncé des détournements de fonds. Il fut ensuite choisi pour succéder à son grand-oncle à cette prestigieuse fonction, lui conférant ainsi d'immenses pouvoirs sur une population d'environ 10 millions d'habitants.
Les enquêteurs éthiopiens chargés de déterminer les causes du crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines ont mis en cause notamment la formation inadéquate fournie par l'avionneur américain. Les conclusions de l'enquête éthiopienne sont contenues dans un rapport d'État publié lundi à la veille du premier anniversaire de la catastrophe. La République démocratique du Congo suit le compte à rebours à la fin de l'épidémie d'Ebola prévue le 12 avril en surveillant de près, entre autres, les ex-patients qui pourraient encore porter le virus dans leur liquide séminal, ont indiqué hier les autorités sanitaires du pays. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis 21 jours et la dernière patiente est sortie le 3 mars d'un centre de traitement à Beni, l'un des épicentres dans l'est de la RDC. Un compte à rebours de 42 jours a commencé le 2 mars pour déclarer la fin de la deuxième épidémie d'Ebola, la plus meurtrière au monde, a précisé l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a qualifié la dixième épidémie d'Ebola sur le sol congolais d'urgence sanitaire mondiale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le gouvernement de Rome a décidé hier soir d'ordonner aux 60 millions d'Italiens de rester chez eux afin de lutter contre le coronavirus dont la progression proche de la pandémie, selon l'OMS, ébranle l'économie mondiale et fait chuter les bourses. L'Italie, pays membre du G7, devient ainsi le premier pays dans le monde à généraliser des mesures aussi draconiennes pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus qui a déjà fait 463 morts et plus de 9000 cas dans la péninsule. La Chine a certes confiné elle aussi plus de 50 millions de personnes à leur domicile, mais aucun pays n'a pris de telles mesures à l'échelle de tout son territoire. Depuis le début de l'épidémie en décembre, la Chine a franchi ce mardi le cap de 4 000 morts avec 17 nouveaux décès en Chine selon un comptage établi par l'agence France-Presse. Et puis, les États-Unis ont demandé un vote du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui pour endosser via une résolution l'accord conclu avec les talibans le 29 février, engageant un retrait militaire américain d'Afghanistan. Cette demande de vote est survenue après d'ultimes tractations sur le projet de résolution américain, notamment à la requête de la Chine, très attachée à son projet de développement des routes de la soie qui voulait une mention sur la coopération régionale. Jean-Roger Bion à ce micro, vous le trouverez Henri Francis pour un nouveau journal dans un peu moins d'une heure, 50 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.